4. Ça fait presque un mois qu'il est prudent maintenant. Se pointe au travail pile à l'heure tous les matins et rentre au manoir aux barges tous les soirs avec les poules. Le seul ancien de Waynesville qu'il ira voir, c'est Charlie Robertson, qui est sorti grâce au test ADN avec son aide. Et Charlie n'est pas fiché comme complice notoire étant donné qu'il était innocent depuis le début. Du moins, du crime pour lequel on l'avait enfermé. Le chef de Maurice au Mac est un connard de gros lard prétentieux à peine capable de se servir d'un ordi, mais qui se fait probablement 60 000 dollars par an. Au moins 60 000. Et Maurice? 11 dollars de l'heure, des coupons alimentaires et une piole au 8e étage pas franchement plus grande que la cellule dans laquelle il a passé les soi-disant plus belles années de sa vie. Maurice n'en mettrait pas sa main au feu. Mais il ne serait pas étonné que son poste de travail soit sur écoute. Il a l'impression qu'aujourd'hui en Amérique, tout est sur écoute. Sa vie est merdique. Et à qui la faute? Audience après audience, il avait répété sans hésiter à la commission des libérations conditionnelles que c'était la sienne. Il avait appris à jouer au jeu de la culpabilité avec l'Arsène Lobsène. Plaider le regret est une nécessité. Si tu leur donnes pas du mea culpa en veux-tu en voilà, tu sortiras jamais. Peu importe ce que racontera dans une lettre une salope rongée par le cancer, espérant s'attirer les bonnes grâces de Jésus. Maurice avait pas eu besoin de Duck pour lui expliquer ça. Il n'était pas tombé de la dernière pluie. Mais est-ce que ça avait vraiment été sa faute? Ou la faute de cet enfoiré juste là-bas? De l'autre côté de la rue, et 4 numéros plus loin que le banc où Maurice est assis, avec sur les genoux les restes du bagel qu'il n'arrive pas à terminer, un chauve obèse sort en majesté de Hallyday Rare Editions après avoir tourné l'écriteau sur la porte côté fermée. C'est la troisième fois que Maurice observe ce petit rituel de midi. Parce que le mardi, il est d'après-midi au Mac. Il ira à 1 heure et travaillera à la mise à jour du vieux système de classement des fichiers jusqu'à 4. Maurice ne doute pas que les gens qui font tourner cette boîte en savent un paquet sur l'art, la musique et le théâtre, mais ils connaissent que dalle au gestionnaire de tâches de Mac. À 4 heures, il prendra le bus et rentrera dans son trou à rats du 8e étage. Mais en attendant, il est là, à observer son vieux pote. En supposant que ça se passe comme les deux derniers mardis midi, Maurice n'a aucune raison de penser que non, son vieux pote a toujours aimé son petit train-train. Andy a l'idée va descendre l'Eastmaker Lane en marchant, enfin plutôt en se dandinant, jusqu'à un café appelé Jamais Toujours. Putain de nom à la con. Ça veut absolument rien dire, mais ça vous a un air prétentieux. Ah, mais c'est du Andy tout craché, ça, pas vrai? Le vieux pote de Maurice, celui avec qui il avait discuté de Camus, Ginsberg et John Rothstein au cours de nombreuses pauses café et déjeuners, a pris au moins 45 kilos. Changer sa monture de corne pour des lunettes de designer ruineuses et porte des chaussures qui ont l'air de coûter plus cher que tout l'argent que Maurice s'est fait en 35 ans de labeur à la prison de Waynesville. Mais au fond, Maurice est quasi certain que son vieux pote n'a pas changé. L'arbre tombe toujours du côté où il penche. Un autre vieux proverbe. Et à connard prétentieux un jour, connard prétentieux toujours. Le propriétaire de Andrew Hallyday Rare Editions s'éloigne dans la direction opposée à Maurice. Mais Maurice ne se serait pas affolé si Andy avait traversé la rue et s'était approché. Après tout, qu'est-ce qu'il verrait? Un vieux monsieur aux épaules étroites, avec des poches sous les yeux et des cheveux gris clairsemés, en veste de survêtement premier prix et pantalon gris encore moins cher, achetés tous deux à Chapter 11. Son vieux pote passerait devant lui en poussant sa grosse bedaine, sans un regard, encore moins d'eux. « J'ai dit à la commission ce qu'il voulait entendre, » pense Maurice. « Il le fallait. Mais toutes ces années perdues, c'est ta faute à toi, salopard d'homo vaniteux. Si j'avais été arrêté pour les meurtres de Rothstein et de mes partenaires, ce serait différent. Mais c'est pas le cas. J'ai jamais été interrogé à propos de messieurs Rothstein, Dow et Rogers. J'ai perdu toutes ces années à cause d'un rapport sexuel forcé et désagréable dont je me souviens même pas. Et pourquoi j'ai fait ça? Eh bien, c'est un peu comme dans l'histoire de la maison que Jack a bâtie. J'étais dans la ruelle au lieu d'être dans la taverne, quand cette pute de Hooper est passée. Je m'étais fait virer de la taverne parce que j'avais filé un coup de pied dans le jukebox. J'avais filé un coup de pied dans le jukebox pour la même raison qui m'avait poussé à entrer dans la taverne, parce que j'étais furax contre toi. Pourquoi tu reviens pas me voir début 21e siècle avec tes carnets, si tu les as toujours ? Maurice regarde Andy s'éloigner en se dandinant. Serre les poings et pense. Tu ressemblais à une fille ce jour-là. À la petite vierge en chaleur avec qui tu fricotes sur la banquette arrière de ta voiture et qui est là.
Oui, chérie. Oh oui, je t'aime tellement.
Jusqu'à ce que tu remontes sa jupe jusqu'à sa taille, bien évidemment. Alors là, elle serre les genoux presque assez fort pour te péter le poignet et c'est genre
« Non, oh non, arrête, tu me prends pour une fille facile ?»
T'aurais au moins pu être un peu plus diplomate, pense Maurice. Un peu de diplomatie aurait pu m'épargner toutes ces années gâchées. Mais non, même ça, tu pouvais pas, hein ? Même pas un bravo ? Ça a dû demander du courage. Tout ce à quoi j'ai eu droit, c'est
« N'essaie pas de me foutre ça sur le dos !»
Son vieux pote trimballe ses chaussures de riche à l'intérieur du jamais toujours, où il se fera sans aucun doute lécher son gros cul par le maître d'hôtel. Maurice regarde son bagel et se dit qu'il devrait le terminer, ou au moins racler le fromage avec les dents, mais il a l'estomac trop noué. Il va plutôt aller au Mac et passer l'après-midi à essayer de remettre un peu d'ordre dans leur système d'archivage numérique foireux et bordélique. Il sait qu'il ne devrait pas revenir ici, dans l'Eastmaker Lane, qui est même plus une rue, mais plutôt une promenade commerçante friquée interdite aux voitures. Et il sait aussi qu'il sera probablement assis sur ce même banc mardi prochain, et le mardi d'après. Sauf s'il a les carnets. Ça changerait la donne. Plus besoin de s'emmerder avec son vieux pote. Il se lève et jette son bagel dans la poubelle la plus proche. Il regarde en direction du jamais toujours et murmure « Tu crains, vieux pote. Tu crains vraiment. Et il m'en faudrait pas beaucoup pour que je te... » Mais non. Non. Seuls les carnets comptent. Et si Charlie Robertson veut bien l'aider, il ira les chercher demain soir. Et Charlie l'aidera. Il doit une fière chandelle à Maurice. Et Maurice a bien l'intention d'en profiter. Il sait qu'il devrait attendre encore un peu qu'Ellis McFarland soit absolument sûr que Maurice fait partie des bons élèves et reporte son attention sur quelqu'un d'autre, mais l'attrait de la malle et de son contenu est trop fort. Il adorerait avoir sa revanche sur le fils de pute obèse en train de s'empiffrer dans un resto de luxe. Mais la vengeance n'est pas aussi importante que le quatrième Jimmy Gold. Il y en avait peut-être même un cinquième. Maurice sait qu'il y a peu de chance. Mais c'est toujours possible. Les carnets étaient bien remplis, sacrément bien remplis. Il se dirige vers l'arrêt de bus en lançant un dernier regard maléfique en direction du jamais toujours et en pensant « Tu sauras jamais la chance que t'as eue, vieux pote. »